Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. On est chez JP ce matin. JP alias Jean-Paul. Il y a du monde qui m'envoie des. Qui m'a demandé c'est qui JP? C'est Jean-Paul, mon père. Mon beau papa. Et puis, on va saluer les gens sur Internet. On va saluer Princesse Claudia, Princesse Bulle, Princesse Claire. On va saluer Rémi. On va saluer Pasteur Jean. On va saluer Pasteur Laurier avec sa femme. On veut saluer Michel, Jacques, qui nous écoute à l'occasion. On veut saluer toutes les gens, on demande pardon, ceux qu'on oublie. Nos petites sœurs, Carmen, Hélène, et Hélène, qui est pas là. Mais c'est ça. Et puis les gens qui nous écoutent sur Radio Prédication, ben on vous salue, la famille Chabot vous salue. Donc, si vous voulez, j'ai-tu oublié quelqu'un? Sûrement. Mais ce n'était pas intentionnel. Je demande pardon à ceux que j'ai oublié. Gérard. On n'a pas dit salut à Gérard. Et puis, si vous voulez, on va prier. On commence par prier, mettre ça au Seigneur et on va commencer. Mais Père, on veut te dire merci. Merci de. On veut pas être familier qu'on puisse se réunir ce matin. Ici, que tu permettes qu'on puisse se réunir. Et puis, Seigneur, on veut te dire merci pour toutes tes grâces, tes bénédictions. Seigneur, on va se courber devant toi ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour proclamer que tu es notre grand Dieu et que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Ce matin, on veut te réclamer cette promesse comme on le fait toujours là où deux ou trois seront assemblés en mon nom. Vous serez parmi eux. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que de prier les promesses. Et puis, on veut te prier ces promesses-là, c'est parce que c'est ta parole, Seigneur, et tout a été fait par ta parole. Et puis, ce matin, on aspire à être enseigné par ton Saint-Esprit, que tu ouvres les yeux de notre cœur, et que tu viennes opérer les transformations pour nous rendre semblables à ton Fils, Seigneur. Et puis, que nos vies puissent le glorifier, Seigneur. On te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen! Eh oui, c'était le dernier partage sur les vices, les 7 vices ou 8 vices, 7, que Paul nous a mentionné dans 1 Corinthiens 13, en nous disant que ce qui n'était pas l'amour. Et puis, en étudiant ce qui n'est pas l'amour, ben, ça nous donne une idée de ce qu'est l'amour. Hein? On sait ce qu'il ne faut pas faire si on veut manifester l'amour. En tout cas, à force de se pencher puis d'étudier, ça peut pas faire autre chose que de nous faire opérer des changements. En tout cas, on l'espère. Dans nos vies, pour être des gens transformés par l'amour de Christ et qui vont manifester l'amour de Christ autour d'eux. Et puis, on avait vu les derniers qui étaient l'irritabilité, la suspicion et le se réjouir du malheur des autres. On a vu que ces trois points-là, c'était pas quand on était dans ces conditions-là. On n'était pas animé par l'amour. On était animé par autre chose. Et puis quand que on avait vu que la suspicion, quand on soupçonnait le mal, dans le fond, on était en train d'imputer le mal à quelqu'un sans le savoir, parce qu'on n'a pas le. C'est surtout dans les suppositions puis dans les non-dits, ce qu'on appelle, dans les situations d'ambiguïté. Où est-ce que ça va arriver? Là, on va se poser des questions. Pourquoi qu'il n'est pas là? Pourquoi qu'il a dit ça? Il a-t-il dit ça pour ça? Et puis là, on va se mettre à imputer le mal. Et puis là, quand on impute le mal, c'est qu'on est en train de promouvoir le mauvais royaume. Hein? Et puis, quand on se réjouit du malheur des autres, c'est qu'à quelque part, on a enregistré ce qui nous avait fait comme mal. Si je me réjouis que quelqu'un ait eu du mal, c'est qu'à quelque part, j'ai écrit le mal qu'il m'avait fait. Hein? Et puis l'amour, c'est ce qu'elle nous disait dans l'original, quand en force d'étudier, ça nous disait que l'amour ne garde pas de traces du mal. Parce que garder des traces du mal, c'est faire la promotion, encore une fois, de quelque chose qui est mauvais. Donc, si je veux changer mon opinion sur une personne, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de me souvenir des bons moments. que j'ai eu avec cette personne-là. Je vais essayer de me souvenir des belles choses au lieu des mauvaises choses. On a toujours tendance à mettre de côté les beaux moments pour donner de la puissance aux mauvais moments. Mais on devrait essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire que les mauvais moments, on ne leur donne pas de puissance, on essaye de se rappeler les beaux moments qu'on a eu ensemble, les bons temps qu'on a eu ensemble. Et puis ça nous permet d'avoir une vision différente, puis d'avoir une attitude différente avec les autres gens. Je ne ferai pas une grosse révision de ça ce matin, mais on avait vu que l'amour était calme, lent à la colère, que l'amour ne tient pas rancune, ne cherche pas à se venger, l'amour pardonne, l'amour n'impute pas le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, etc. Et si ça vous intéresse, bien sûr, c'est déjà sur le site web, pour ceux qui veulent aller consulter. Et puis, j'ai fait une petite modification hier sur le site web parce que, étant donné que peut-être en une quinzaine de partages, le Seigneur nous dirige sur l'amour. Et puis ça, ces partages-là étaient dans la section l'Église selon la parole. Fait que ce que j'ai fait, j'ai divisé la section Église selon la parole, j'ai créé une nouvelle section qui s'appelle l'amour de Dieu, parce que le Seigneur nous donne beaucoup de matériel sur le thème de l'amour. Fait que j'ai pensé que ça serait peut-être une bonne chose de faire une section juste sur l'amour de Dieu. Puis même si c'est évident que cet amour-là doit prédominer dans l'Église de Jésus-Christ, c'est sûr que ça fait partie de l'Église, mais quand même, c'est un thème qui vaut la peine qu'on le mette, qu'on lui donne sa place, c'est-à-dire en y donnant un titre, puis en y donnant une section à lui, propre à lui. Aujourd'hui, il y a Marilyn qui est avec nous autres, le prince JP et la princesse Nicole, et puis moi-même pour vous servir. Et puis aujourd'hui, on continue dans l'amour de Dieu. Mais pour comprendre l'amour de Dieu, on va regarder beaucoup de choses. On a déjà regardé beaucoup de choses, mais on va continuer d'en regarder encore pour comprendre cet amour-là. Pour essayer de se faire une idée de comment Dieu nous aime. Hein? Je ne sais pas si on va être capable, mais à force d'étudier, on va s'approcher doucement de connaître à force à partir des Écritures, évidemment. Et puis aujourd'hui, on va voir des passages du psaume 139. Et puis, le titre du partage, ça s'appelle « Je te connais ». Je te connais. Le Seigneur nous connaît, hein? Mais il nous connaît pas juste d'une façon générale. Il nous connaît d'une façon personnelle. On va voir ça ensemble. Puis David, il avait eu une révélation de ça. Et puis, il avait écrit dans le psaume 139, verset 1 à 3, « Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds, et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher. Tu es au fait de toutes mes voies. » Et puis, on va développer là-dessus un petit peu. Après ça, on va voir une autre partie du psaume 139. Mais c'est à quel point David, il avait commencé par invoquer le Seigneur. Il dit « Éternel, il invoque le Seigneur. » Et puis ensuite, il l'adore en proclamant que tu connais tout. Il dit, c'est mon grand Seigneur, puis tu connais tout. Il parle de son omniscience. Dieu sait tout. Même il sait des choses sur nous que nous autres on sait pas. Hein? Je suis certain qu'il sait des choses sur nous que nous autres on sait pas. Qu'on a caché, c'est caché dans le coin de notre personne. Et puis, il dit, tu m'as sondé, tu m'as connu. David a pris conscience que Dieu nous connaît intimement dans chacun des petits recoins de notre corps, de notre âme. Il connaît intimement chacun de ces recoins. Et puis, même, il connaît des choses qu'on soupçonne même pas. Peut-être qu'il existe. Lui, il sait. Il connaît ça. Et puis, comment c'est réconfortant pour nous autres de savoir combien Dieu nous connaît parfaitement. Et puis, qui sait quand je me lève, quand je m'assieds. Dans Matthieu, ça dit que mes cheveux sont comptés. Chacun de mes cheveux sont comptés. Et puis, c'est pour vous dire comment il a conscience de nous autres, comment il nous connaît intimement, chacun de nous. Et puis, Puis c'est pas parce que ça fait, il fait un effort pour nous connaître, c'est parce que c'est le Créateur. C'est lui qui nous a créés. On va voir, ça va aller plus loin que ça tantôt. C'est plus qu'une création, mais on va voir, on va commencer. On pourra pas comprendre ça, à moins que le Saint-Esprit nous donne une révélation. On va essayer de saisir un petit peu. Mais la créature pour pas comprendre le Créateur, là. Mais on va essayer quand même de s'approcher un petit peu de cette compréhension-là, de cette création-là, de façon que ça a fonctionné. Donc, je dois prendre conscience que Dieu, il me connaît d'une façon intime. Ça dit dans le verset 1, il dit qu'il nous sonde. Il regarde dans notre cœur. Hein? C'est là que ça se passe. Il est vrai, patente. C'est dans notre cœur que ça se passe. Ça fait qu'il vient, il regarde dans notre cœur. Et puis, il nous sonde. Et c'est comme ça qu'il nous connaît. Mais puis ça, c'est une connexion père-fils. Hein? C'est pour ça qu'il est... Comme nous, on a deux enfants, on veut les connaître, on les connaît. On les connaît bien. Et puis, Dieu, c'est pareil. On est ses enfants, puis il nous connaît intimement chacun de nous autres. Dieu, il nous observe en tout temps. Peu importe ce qui arrive. Quand on pense qu'on est seul, on n'est pas seul. Dieu est avec nous autres, puis il nous observe. Tout le temps, tout le temps. Quand je suis assis, il le sait. Quand je décide de me lever, il le sait. Quand je décide de marcher dans telle direction, il le sait. Et puis, le moindre geste ordinaire ou bien quand je suis dans le besoin, Dieu le sait. Ça fait partie de son omniscience. Comment on peut expliquer ça? On peut pas expliquer ça. Hein? On peut pas expliquer ça parce que notre Dieu est trop grand. Donc on peut pas connaître pour comment il fait ça. Mais les Écritures déclarent qu'il sait comme ça. Donc, quand je suis humble, il le sait. Quand je suis orgueilleux, il le sait aussi. Et puis, chaque mouvement que je fais avec mon corps, il connaît. Il sait ce que je suis en train de faire. Je vais vous dire plus que ça. Il sait ce que je vais faire. Aussi. Donc, moi, je disais dans mon temps hier, comment qu'on peut te surprendre, nous autres, Seigneur? Hein? Faudrait avoir une révélation de ça. Comment on peut surprendre Dieu, nous autres? Je pense pas qu'on peut se surprendre d'un bain par notre attitude, hein? C'est pour ça que quand on essaye de lui faire plaisir, on essaye de, par nos propres forces, on peut pas faire rien, qu'il connaît déjà. Il connaît déjà ce que je vais essayer de faire. L'intention, quand même, est belle. Donc, nos pensées à nous sont invisibles à nos yeux, hein? On voit pas les pensées, mais lui, il les voit. Ça dit qu'il voit chacune de nos pensées. Il connaît chacune d'elles. On est parfaitement, complètement compris de la part de Dieu. Il nous comprend. Dans tout ce qu'on vit, il nous comprend. Et puis, parce que notre âme, elle lui est complètement transparente. Il sait quand je marche, quand je me couche, il est dans l'air qui m'entoure. Il est avec nous aujourd'hui. Hein? Et puis, en permanence, puis il est aussi avec toutes les créatures qui vivent dans ce monde-là. Je suis enfermé dans son cycle de connaissance à lui. Donc, si je suis éveillé, je suis endormi, je suis observé par le Seigneur. Même quand je dors, le Seigneur m'observe. Parce que je suis son enfant. Et qu'il nous aime. Donc, il garde un œil sur nous autres. Quand on avait un enfant à bas âge, hein, on regardait tout le temps, c'est tout à carré. Je me souviens que Marilyn, tu sais, j'avais, elle dormait toujours 5-5 oreilles. Ça va, c'est tout à carré. Mais Dieu, c'est comme ça, il veille sur nous autres, tout le temps. Et puis, moi, je peux laisser son chemin. Je peux abandonner Dieu dans ma vie. Mais lui, il m'abandonne pas. Lui continue de marcher, de me suivre et puis de me protéger. Je peux dormir, je peux l'oublier, mais lui, il dort pas, il n'oublie pas. Parce que je suis sa création. Et puis l'autre partie du verset, ça dit, « Et tu es au fait de toutes mes voies. » Donc, il est familier avec tout ce que je fais, Il n'y a rien que je peux y cacher. Je peux absolument pas cacher rien à Dieu. Donc, nos chemins peuvent nous paraître habituels ou accidentels. Je pense à notre orignal qu'on a frappé. Tout a réglé le même soir. Tu sais, j'avais une auto chez nous. On n'avait rien. Il y avait juste des dommages matériels. On voyait la main comme Dieu avait posé sa main. Et puis, j'étais chez nous le même soir, un dimanche soir, j'ai trouvé une auto. Loué une auto. Les assurances, tout s'est réglé. Comme si, il y avait absolument aucun problème. Je peux amener une vie cachée des hommes ou une vie au grand jour. Peu importe, notre grand Dieu qui est saint, il le voit. Il voit toutes les parties de ma vie. Et puis, ça, c'était pour les trois premiers versets. Maintenant, on va voir les versets 13, 14 et 15. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est d'autres choses, là. Hein? Mon corps n'était point caché. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu comprends-tu? C'est qu'avant que je vienne à ce que je naisse, ma vie était écrite. Chacun des jours de ma vie. Donc, le Seigneur, il est propriétaire de nos parties les plus intimes, puisqu'il en est le créateur. Hein? Mais il nous a créé qu'un libre arbitre. Et puis, c'est le seul ennemi de Dieu, normalement. C'est notre libre arbitre. Mais c'est pas seulement un observateur, c'est le créateur. Le Seigneur, il connaît les endroits les plus secrets de mon être. On se rappelle que le mot rein signifie le siège de la conscience. Vous vous souvenez de ça? Quand le mot rein est utilisé, cindre nos reins, ça voulait dire cindre ta conscience, ce qu'il y a dans ta conscience, tes aspirations, tes désirs, sont-ils basés sur des préceptes divins? C'est ça, ça s'appelle cindre notre conscience. Et puis, il est aussi créateur de ça, il parle de même le propriétaire. Avant que nous le connaissions, il nous connaissait. Est-ce qu'on pense à ça? Avant qu'on connaisse, lui, il nous connaissait. Puisqu'il a tissé, il nous a tissé dans le ventre de notre mère. Il nous cachait, il nous protégeait comme un trésor avant de nous amener dans la lumière, dans le monde. Jusqu'à notre naissance, nous étions sous sa tutelle, en intimité avec lui. Mon corps n'était point caché devant toi. La partie substantielle de mon être était devant tes yeux qui voient tout. Les os qui forment mon corps ont été mis en place par ta main. Les matériaux essentiels de mon être ont été disposés par toi. Quand personne ne me connaissait, j'étais connu de toi. Tu as toujours été intimement lié avec moi. Hein? Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Oh. Je parle pas du ventre de la mère ici. Je parle d'autre chose. On mentionne que la formation de notre être a été avant l'heure de notre naissance. Donc, avant que je naisse, il me connaissait. Il m'a vu. Avant que je naisse. Il me connaissait, puis mes jours étaient écrits dans son livre. Ça vous dit-tu à peu près que l'intimité Dieu veut avec nous? Ça fait penser à un grand artiste, hein, qui prépare une création, mais il n'en montre pas à personne avant qu'elle soit finie. Hein. Il prépare ça dans le secret. Hein. Et puis, il est fier de ça. Puis, il y a une grande partie de nous-mêmes qui a été conçue dans le secret. Quand il dit dans David, il dit lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Mais on peut pas comprendre. Comme je vous disais, on peut pas comprendre ça. Là. Mais le Seigneur nous a vus. Il nous a vus avec ses yeux. Et puis, notre vie était écrite. Chacun des jours de notre vie était écrit dans son livre avant qu'on fût créé. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire qu'il n'a pas été désiré? Y a-t-il une personne qui peut dire qu'il est né par erreur? Y a-t-il une personne qui peut dire, moi, mon père, ma mère, ils ne me voulaient pas, c'est un accident? Non, non, c'est parce que tu ne connais pas la parole. La parole a dit que Dieu t'a vu avant que tu naisses, qui a écrit les jours de ta vie, avant même que tu viennes au monde. Oui, tu as été voulu par Dieu. Oui, Dieu a voulu que tu marches et que tu profites de sa puissance puis de son amour. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, oui, ça, on a parlé de ça. Une grande partie a été faite dans le secret. La vraie Église est aussi façonnée dans le secret, hein, l'Église de Christ. L'Église de Christ, c'est pas un bâtiment, hein. C'est des gens. Et elle est façonnée dans le secret. Il y a juste Dieu qui sait c'est quelle son Église, hein. Et puis, on a été formé avec beaucoup de talents. On a été formé avec beaucoup de si on regarde juste le corps humain. Le corps humain, comment il est fait. Et puis, comment c'est bien fait, là. C'est comment c'est, il y a aucune invention de l'homme qui peut arriver avec cette création-là. C'est vraiment au-dessus de tout ce qu'on peut connaître, là. Hein? Ils ont bien essayé. Quelle œuvre humaine peut égaler l'œuvre de Dieu? Il n'y en a pas. Le travail a été fait en privé. Et puis, ce qui ressort de ça, c'est qu'on doit être convaincu que Dieu nous connaît intimement. Chacun de nous. Il nous aime, puis il nous connaît intimement. Ensuite, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Bon. Ça, on pourrait se donner une image que le potier, hein, qui va faire une poterie. Mais avant de la faire, il envoie sa poterie. Hein? Il y a une idée de quelle poterie il veut faire. Hein? Fait que Dieu, c'est la même chose. Avant qu'on soit créé, il nous a désiré comme on est là. Il a voulu nous faire comme on est là, exactement comme on est là. Il nous a désiré comme ça. Comme un potier qui se préparait à faire une poterie, mais que c'était genre, c'est juste de la terre ou de la glaise. Puis là, il se prépare, puis dans sa tête, il a avoué sa poterie qu'il veut faire. T'sais. Tes yeux me voyaient. Donc, c'est certain que les yeux de Dieu discernent des choses que nous autres, on peut pas aussi clairement que nous autres, on voit des choses dans le monde, mais les yeux de Dieu discernent des choses qu'on voit pas comme ça. Donc, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant que chacun d'eux, qu'aucun d'eux n'existe. Ça, c'est un peu spécial, hein? Dieu me connaisse tellement bien là, qu'il savait les décisions que je prendrais. C'est spécial. Il savait que les choix que je ferais dans ma vie. Et puis, ça me fait penser à un architecte là, qui se prépare à vraiment une construction. Hein. Ben, il va faire des plans. Il va faire ses plans puis il va faire un cahier de charge. Pour qu'arriver au but de la construction. Mais le grand créateur, c'est un peu ce principe-là quand il dit, je te connaissais, puis tous les jours de ta vie étaient écrits. Mais c'est comme l'architecte qui a préparé sa construction, qui a fait les dessins, qui a fait les cahiers de charge, puis il a dit, OK, là maintenant on peut y aller. Ben, ça, c'était notre cahier de charge, hein, quand il nous a créés. Donc, le dessein de Dieu pour nos vies, a été établi avant même qu'on soit créé. Puis Dieu nous a vus avant de nous créer. Dieu nous a vus quand on pouvait pas être vu. C'est juste lui qui pouvait nous voir. Puis il a écrit sur nous lorsque nous n'existions pas encore. Il était sous sa table à dessin, hein? L'humanité, on était sous sa table à dessin pendant qu'il a pensé, hein? Chacun de nous-mêmes. Il a vraiment pensé chacun de nous pour nous créer. Et puis, est-ce que c'est dans notre capacité de comprendre ça? Ben, en tout cas, on sait un peu plus aujourd'hui comment est-ce qu'on est voulu, comment est-ce qu'il veut de cette intimité-là avec nous autres, comment est-ce qu'on est aimé, comment est-ce qu'on est planifié, comment c'était planifié qu'on ait un rôle à jouer dans son plan à Dieu. Mais comment la créature peut comprendre le créateur? Je pense qu'on ne pourra pas, à moins que lui nous le révèle par son Saint-Esprit. Mais on a quand même une meilleure idée de la création aujourd'hui, de notre plan pour Dieu. Est-ce que on se trompe en disant que le corps de Christ, c'est un peu comme ça aussi? C'est écrit jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Donc, il sait que... L'enlèvement de l'Église va avoir lieu quand la totalité des païens vont être rentrés dans le corps de Christ, qui vont avoir accepté Christ. C'est un peu la même chose. C'est un peu la... Nous, tout ce qu'on a à découvrir, c'est ce que lui a planifié pour nous autres. C'est ça notre but. À la lumière des versets qu'on vient de voir, on peut constater que Dieu, il regarde au fond de notre cœur en tout temps. Et il sait tout de nous. Il connaît absolument tout de nous. Il ne peut pas avoir de secret avec Dieu. Puis Dieu m'aime comme son enfant, puis il me regarde comme son enfant. Prends soin de moi comme son enfant. Et de vous aussi, pour vous dire. Il connaît chacun de nos déplacements, nos gestes, nos pensées. Quand je tombe, il le sait. Quand je me relève, il le sait. Il connaît parfaitement chacun des détails de ma vie. Il m'a tissé. Il nous a tissé dans le ventre de notre mère. Puis, il a fait de nous une créature merveilleuse. Notre naissance était planifiée avant la fondation du monde. Et tous nos jours furent écrits dans son livre avant même que nous fussions créés. Ce qui fait de nous ses enfants, chéris. Comprenez-vous? Comment on est important pour lui? On est très important pour lui. Puis, il désire avoir la même relation. Imaginez-vous la relation que lui a avec nous, là. Ça, je vais revenir à ce que, souvent, qu'est-ce qu'on dit, c'est que Dieu, il veut avoir la même relation. Il veut que moi, je cherche à le connaître intimement autant que lui veut me connaître intimement. Il veut cette relation-là personnelle avec chacun de nous autres. Il veut qu'on essaie de le connaître ardemment de notre côté. Et puis, ce serait son plus grand bonheur si chacun de nous désirait faire ça. Parce que, c'est sûr que pour lui, ça va l'honorer beaucoup, puis il aime ses enfants, puis quand ses enfants commencent à vouloir le connaître, mais lui, il est heureux de ça, c'est certain. Donc, c'est ce qui termine aujourd'hui cette prise de conscience-là. Donc, ça va certainement avoir une influence dans ma compréhension de l'amour de Dieu. Comment se fait ça que Dieu m'aime comme ça? C'est parce que je suis pas un numéro pour lui. Hein. Je suis quelqu'un d'important. Quelqu'un qui a été planifié. Quelqu'un qui a voulu, qui a désiré avoir comme enfant. Hein? Et puis ça, ben, c'est une prise de conscience qui va faire que nous autres, on va avoir le goût de le connaître plus comme père aussi. Hein? De savoir qu'est-ce qu'il attend pour nos vies, qu'est-ce, c'est quoi le plan qu'il y a pour chacun de nos vies. Et puis, si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur, après ça, on va faire un appel. Ça va terminer notre partage aujourd'hui. Mais Père, on veut se courber devant toi aujourd'hui pour te louer, pour t'adorer devant ta grandeur et ton plan parfait pour chacun de nous. Seigneur, daigne par pure grâce te révéler à nous, afin que nous puissions mieux te connaître. Fais de nous ce que tu voudras pour ta gloire, Seigneur Dieu. Et puis, si tu as entendu ce message aujourd'hui, que tu aimerais avoir cette relation familiale avec le Père, premièrement, tu dois connaître qu'il y a une séparation entre toi et Dieu aujourd'hui. La Bible déclare que l'humanité, dans l'état où elle est, est séparée de Dieu. Par contre, on voit dans Jean 3,16 que Dieu a pourvu une solution. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1,12, ça dit à celui qui a cru, qui a reçu Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, on voit que la Bible déclare qu'il n'y a rien par toi-même, par tes propres œuvres qui vont faire que les portes du ciel vont être ouvertes. Il n'y a rien que tu vas faire dans ta vie qui vont faire que ces portes vont être ouvertes. Par contre, la solution a été fournie en Jésus-Christ, qui est venu mourir à notre place, qui est venu prendre le paiement. Et puis, la Bible dit que si tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ, si tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, et puis qu'il a payé pour toi, bien, la Bible dit qu'aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu. Donc, premièrement, tu dois te repentir d'avoir mené ta vie sans Dieu. Et puis, si aujourd'hui, tu veux prendre cette décision, et si jusqu'à maintenant, tu as vécu ta vie sans Dieu, et qu'aujourd'hui, tu te repens d'avoir vécu ta vie sans Dieu, et que tu demandes pardon au Seigneur pour cela, et que tu acceptes Jésus-Christ, que tu as entendu que Jésus-Christ a payé pour toi, et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible déclare que tu deviendras aujourd'hui même un enfant de Dieu, et que tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Et puis, c'est Dieu regarde à ton cœur. Hein? On a vu aujourd'hui que Dieu regarde dans notre cœur. Si tu répètes une prière de façon répétitive ou robotique, mais que dans ton cœur, tu désires pas ardemment recevoir ce cadeau, c'est que tu n'es pas repentant d'avoir vécu ta vie sans Dieu jusqu'à aujourd'hui, ben ça ne sert à rien de lire une prière sur un papier. Mais Dieu regarde à ton cœur, et si vraiment aujourd'hui, tu te repens d'avoir mené ta vie sans Dieu, et que tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ, et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit qu'aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu. Si tu veux, on va prier avec toi, et puis après, on va prier pour toi. Et puis tu n'as qu'à prier avec nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie sans toi. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois, je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur Jésus, je veux prier pour les gens qui ont fait cette prière. Que tu touches leur cœur maintenant puissamment, Seigneur. Qu'ils ne puissent jamais douter qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle. Mais Seigneur, envoie-leur des ouvriers qu'ils deviennent tes disciples, qu'ils deviennent le sel et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus, compris. Amen. Merci beaucoup.